Afatassel. Gabi, Gabi, Gabi. Ah, il est très en forme. Il est très très en forme. Ah Gabi, je pense que tu as besoin de l'autorité parentale et que ça va plutôt mal se passer. Oh Gabi. Merci beaucoup Nico pour cette intro. Merci pour nous avoir rappelé que nous pouvons remettre tous nos soucis au Seigneur. Salut Gabi, à bientôt. Il a vraiment envie de faire sa star ce matin. On va rester dans le même thème. Comme souvent, il y a un vrai lien entre l'introduction du culte et la prédication. On va rester dans le thème de se délester, de se décharger. Mais d'une autre manière. On a parlé des soucis, mais Dieu nous demande de nous décharger de beaucoup plus que des soucis. Alors on l'a vu, Nicole en a parlé, et on peut s'expliquer, c'est difficile de se décharger de nos soucis sur Dieu. Mais ce n'est pas le plus difficile. Et on va voir un passage de la vie de David, où on va justement voir un exemple de décharge, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de décharge. Donc c'est dans 1 Samuel au chapitre 20, et donc c'est un épisode un peu moins connu de la vie de David. David est en fuite devant Saül. Saül est devenu fou. Saül sait qu'au fond de lui qu'il a été abandonné par Dieu, qu'il ne sera bientôt plus roi et que David va lui succéder. Et quand il voit les succès de David, il essaie de le tuer. Donc une fois, deux fois, au bout d'un moment, David s'enfuit avec la complicité des enfants de Saül, qu'il aime beaucoup. Et donc Saül a carrément lancé sa lance sur David pour le tuer. Donc là, David est en fuite. Et voici ce qui se passe ensuite. 1 Samuel 20. C'est un passage avec 42 versets, je vous préviens. David s'enfuit des Naïotes de Rama. Il alla trouver Jonathan, le fils de Saül, et dit « Qu'ai-je fait ? Quelle est ma faute ? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Jamais tu ne mourras. Mon père ne fait jamais rien sans m'en informer. Pourquoi donc mon père cacherait-il cela ? Il n'en est rien. » David fit encore ce serment. « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais par la vie du Seigneur et par ta propre vie, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit, « Demain, c'est la nouvelle lune. Je devrai m'asseoir avec le roi pour manger. Mais laisse-moi partir et je me cacherai dans la campagne jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a demandé instamment de le laisser aller rapidement à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour tout le clan un sacrifice annuel. » Il dit « C'est bon, c'est que tout va bien. » S'il dit « C'est bon, c'est que tout va bien pour moi, ton serviteur. » Mais s'il se fâche, sache qu'il a résolu le malheur. Tu agiras ainsi avec fidélité envers moi, puisque tu m'as fait entrer avec toi dans une alliance du Seigneur. Et s'il y a une faute en moi, mets-moi toi-même à mort. Pourquoi me remettrais-tu à ton père ? Jonathan lui dit, « Jamais ! Ne crois pas que je pourrais avoir connaissance d'un malheur résolu contre toi par mon père sans te le faire savoir. » David dit à Jonathan, « Dans le cas où ton père te répondrait avec dureté, qui me le fera savoir ? Et Jonathan dit à David, « Viens, sortons dans la campagne. » Et ils sortirent tous deux dans la campagne. Jonathan dit à David, « Par le Seigneur, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain à cette heure-ci. S'il est bien disposé envers David et que je ne t'envoie personne pour t'informer, que le Seigneur fasse à Jonathan ceci ou qu'il y ajoute cela. » C'est une formule de malédiction. « S'il plaît à mon père de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir pour que tu t'en ailles en paix et que le Seigneur soit avec toi comme il a été avec mon père. Tant que je vivrai, tu agiras envers moi avec la fidélité du Seigneur et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta fidélité de ma maison, pas même lorsque le Seigneur retranchera de la terre chacun des ennemis de David. » Jonathan conclut donc une alliance avec la maison de David, que le Seigneur fasse payer tes ennemis, les ennemis de David. Pardon. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit, « C'est demain, la nouvelle lune, on s'inquiétera de toi, car ta place sera vide. » Le troisième jour, tu descendras assez bas pour arriver au lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches dans ta direction, dans sa direction, comme si je visais une cible. Alors j'enverrai le garçon et je lui dirai « Va chercher les flèches ». Si je lui dis « Les flèches sont devant toi, prends-les », alors viens, tout va bien pour toi. Et il n'y a rien à craindre par la vie du Seigneur. Mais si je dis au jeune homme, les flèches sont plus loin, alors va-t'en, car le Seigneur te fait partir. Quant à la parole que nous nous sommes donnée, toi et moi, le Seigneur en est pour toujours le garant entre toi et moi. Entre moi et toi. David se cacha dans la campagne, c'était la nouvelle lune, et le roi s'assit pour manger. Le roi s'assit, comme à l'ordinaire, sur son siège, contre le mur. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien en ce jour-là. Il se disait, c'est par hasard, il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, deuxième jour de la nouvelle lune, la place de David resta encore vide. Et Saül dit à son fils, Jonathan, pourquoi le fils de Jessé n'est-il venu manger ni hier ni aujourd'hui. Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé instamment de le laisser aller jusqu'à Bethléem. Il a dit, laisse-moi partir, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de clan. Et mon frère m'y a convoqué. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que je m'échappe pour voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors Saül se mit en colère contre Jonathan et il lui dit « Fils de perverse, fils de rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils de Jessé à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère ? Car aussi longtemps que le fils de Jessé sera vivant sur la terre, il n'y aura de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Maintenant envoie quelqu'un le chercher, amène-le-moi car il mérite la mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, « Pourquoi serait-il mis à mort? Qu'a-t-il fait ?» Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan sut ainsi que son père avait résolu de faire mourir David. Jonathan se leva de table dans une colère ardente. Il ne mangea rien le deuxième jour de la nouvelle lune. Il avait de la peine à cause de David parce que son père l'avait insulté. Le lendemain matin, Jonathan alla dans la campagne pour le rendez-vous qu'il avait avec David. Il était accompagné d'un jeune garçon. Il lui dit « Cours, chercher les flèches que je vais tirer, je te prie. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsque le garçon arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui « La flèche est plus loin !» Il lui cria encore « Vite, dépêche-toi, ne t'arrête pas !» Le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Seul Jonathan et David savaient de quoi il en retournait. Jonathan remit ses armes au garçon qui était avec lui et lui dit « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté sud, puis il tomba face contre terre, se prosterna par trois fois. David et Jonathan s'embrassèrent, ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce que David en fît plus. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons tous deux fait ce serment au nom du Seigneur, que le Seigneur soit entre toi et moi, entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. » Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Merci notre Père pour ces histoires qui viennent du fin fond des siècles. Merci pour cette histoire du roi David et de Jonathan qui nous instruisent encore aujourd'hui que Seigneur, par ton esprit, tu nous aides à être transformés par cette histoire qui est ton histoire avec l'humanité. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Certains commentateurs, à l'imagination et probablement à la libido débordante, ont cru voir dans ce passage les indices d'une liaison amoureuse entre David et Jonathan. Parce qu'on nous dit souvent que David et Jonathan s'aimaient profondément, s'aimaient comme eux-mêmes. Pourtant, dans ce passage, de nombreux indices montrent autre chose. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Élément de contexte d'abord, David est en cavale. Je vous l'ai dit, la situation n'est pas du tout propice à une histoire d'amour. David vient d'échapper de justesse au tueur de Saül. Et il ne sait plus trop quoi faire. Hier, David était général. Il était le héros d'Israël. Il était le gendre du roi. Mais maintenant, David est une bête traquée. Il est tout seul, absolument seul. Enfin non, pas tout seul, parce qu'il lui reste encore un allié. Il lui reste Jonathan. Au lieu d'aller voir Jonathan, il pourrait retourner à la cour de Saül en espérant que Saül était simplement au cœur d'une de ses crises de démence habituelles. Il pourrait aussi se dire que puisqu'il a déjà été oint pour être roi, il pourrait tenter un coup d'État. Il pourrait tenter de tuer Saül et de prendre la royauté lui-même. Mais il choisit de retourner plutôt vers Jonathan. Même s'il est assuré d'être le prochain roi, eh bien, il retourne vers Jonathan en lui disant « Il n'y a plus que toi maintenant ». Il n'y a plus qu'un pas entre toi, entre moi et la mort. C'est ce qu'il dit au verset 3. Jonathan lui dit, oui, mais en fait, si mon père voulait te tuer, il m'en aurait parlé. Jonathan pense encore que son père est peut-être un petit peu fou, mais qu'il n'a pas totalement résolu de tuer David. Mais David lui dit, je te promets, ton père veut vraiment me tuer. Il ne t'a rien dit, mais il n'y a qu'un seul pas entre moi et la mort. Donc aide-moi, tu es mon seul allié. Et on voit qu'en fait, le serment que David avait fait avec Jonathan fonctionne. Et que vous avez peut-être entendu dans les 42 versets qu'il y a beaucoup question de serment, de pacte qui a été conclu entre David et Jonathan. Ils ont conclu une alliance et donc David lui rappelle expressément au verset 8. Et si David mentionne cette alliance, c'est parce que Jonathan pourrait être tenté d'être comme son père en voyant la superbe opportunité de se débarrasser de David. Car s'il n'y a qu'un pas entre David et la mort, il n'y a qu'un pas entre Jonathan et la royauté. Jonathan, il a juste à sortir son épée, à tuer David, et c'est bon. Il est sûr d'être roi après Saül, puisque le principal concurrent de Saül, c'est David. C'est pour ça que David lui rappelle quand même son serment à tout hasard. Au verset 30 et 31, quand Jonathan est à la table de Saül et que Saül comprend que David ne reviendra pas et que Jonathan est un peu complice, Saül lui rappelle cela au verset 30 et 31. Le roi explique à son fils que David est son rival direct, menaçant la succession familiale. Tant que David sera vivant, notre dynastie est menacée, c'est ce que lui dit Saül. Pourtant, Jonathan joue contre ses intérêts personnels. Jonathan a conclu une alliance contre nature, car il a bien compris ce qui va se passer. Dieu a rejeté la dynastie de Saül, et c'est David qui régnera. Jonathan a compris cette réalité, et il veut vivre cette réalité. Ce discernement de Jonathan le pousse même à implorer David de garder cette alliance quand il sera sur le trône, dans les versets 13 à 17. Et on voit que c'est complètement bizarre, alors que David est tout seul et qu'il implore Jonathan de respecter son alliance et de ne pas le tuer, au bout de la conversation, c'est Jonathan qui rappelle à David l'alliance et qui lui dit « Quand tu régneras, ne me tue pas ». C'est complètement bizarre. Alors qu'en fait, la situation est totalement favorable, alors que la vie de David est entre ses mains. Au bout d'un moment, c'est lui qui dit à David « Rappelle-toi, rappelle-toi, quand tu régneras, épargne ma vie et épargne la vie de mes enfants. » Car vous le savez sûrement, chez les rois comme chez les animaux, on se débarrasse des descendants qui peuvent être menaçants pour sa propre dynastie. Donc, quand une nouvelle dynastie venait au pouvoir, on s'arrangeait pour tuer tous les mâles de l'ancienne dynastie pour pas qu'ils reviennent régner un peu plus tard. Donc, David pourrait aussi être tenté de tuer tous les descendants de Saül une fois qu'il régnera. Mais du coup, Jonathan lui dit, selon l'alliance qui est entre nous, quand tu régneras, eh bien, épargne la vie des descendants de Saül. Quel retournement de situation, quelle acuité de la part de Jonathan qui voit beaucoup plus loin que la situation actuelle, qui voit vraiment beaucoup plus loin dans l'avenir, qui voit en fait la promesse qui a été faite à David, l'onction qui est venue sur David de la part du prophète Samuel. David sera roi. Plusieurs années plus tard. Si les différentes paroles de serment qui sont prononcées montrent d'abord que Jonathan est un homme de parole, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une alliance et que dans une alliance, les deux contractants de l'alliance en retirent des bénéfices. Donc bénéfices immédiat pour David et des bénéfices futurs pour Jonathan. Et donc, ici, on n'est pas dans une histoire sentimentale, on est dans une histoire d'alliance. Et dans une alliance, eh bien, alors qu'on pourrait mourir dans telle ou telle situation, on s'assure que la personne en face ne nous fera pas mourir et sera notre allié pour toujours. C'est pourquoi il y a cette fameuse formule « Si je ne fais pas ça, que l'Éternel me fasse ceci ou cela. » C'est ce que dit Jonathan à David. « Que l'Éternel me fasse ceci ou cela si je ne respecte pas mon alliance. » Mais comment savoir, une fois qu'il y a eu cette alliance, comment savoir si Saül voulait seulement tuer David après une nouvelle crise de démence ou bien si c'est un projet vraiment sûr et durable pour lui? Et il va falloir mettre Saül à l'épreuve. Il va falloir mettre en place un stratagème, mais sans s'exposer quand même. Donc, Jonathan va donc devoir mentir à son père, tout comme sa sœur avait menti à son père au chapitre précédent. Elle avait fait fuir David alors que les tueurs étaient à la porte. Elle avait mis des coussins sous la couverture, et même une idole d'ailleurs sous la couverture, pour faire croire que David était là. Mais la sœur de Jonathan avait menti à son père et à ses tueurs pour faire fuir David. Et là, Jonathan fait pareil. Il ment à son père pour faire fuir David. Donc, On raconte que David est allé à Bethléem pour faire un sacrifice, et le but c'est de tester pour voir la colère de Saül. Bien sûr, Saül se met en colère. Non seulement il se met en colère, mais il manque de tuer son propre fils. Il brandit sa lance pour embrocher son propre fils. Donc là, Jonathan, il se dit, oui, là, je pense que mon père a complètement pété un câble et qu'il veut vraiment tuer David. Et donc, il sait les intentions de son père. Mais encore après, il faut prévenir David sans que David soit visible. Donc, il y a ce nouveau stratagème de la flèche envoyé trop loin, et des paroles qu'il dit à son serviteur qui n'est au courant de rien, pour que David entende derrière le rocher ce qui est en train de se dire. Et donc David comprend que là maintenant, il est officiellement en cavale. Que là maintenant, il va devoir se planquer, parce que les tueurs vont être à ses trousses tout le temps. Les deux amis sont fixés, ils ne se renverront pas de sitôt, car David est officiellement en cavale. La couronne n'est pas pour demain, mais l'alliance entre David et Jonathan commence dès aujourd'hui. Et tout ça, finalement, ça nous rappelle quelque chose qui va arriver dans le futur. Laisser derrière soi ses intérêts, laisser derrière soi son confort, laisser derrière soi même sa famille, pour miser sur un homme parce qu'on pense qu'il sera roi dans l'avenir. C'est ce qu'a fait Jonathan. Et c'est ce qu'ont fait les disciples de Jésus. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que Nico parlait de se décharger de ses soucis. Jonathan, lui, se décharge de son confort. Jonathan se décharge de son intérêt, de ses intérêts. Il est tout puissant. Mais il décide de se décharger de ça, de faire le deuil de cela, au profit de David. Les disciples ont tout laissé derrière eux, leur vie normale, pour vivre avec Jésus, parce qu'ils savent que Jésus est le nouveau David, le vrai roi, le vrai Messie. Et d'après Jésus, c'est justement l'attitude normale, cette attitude contre nature de tout laisser pour un hypothétique roi, c'est l'attitude normale des disciples. C'est la caractéristique des fous qui viennent le suivre. Et c'est ce qu'on voit avec deux passages. Le premier passage dans Matthieu 10, voici ce que dit Jésus. « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Matthieu 10. Et en parallèle, Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Vous voyez la connexion entre l'histoire de David et Jonathan et l'alliance que Jésus propose à ses disciples. L'alliance que Jésus propose à ses disciples est même beaucoup plus menaçante, parce qu'il leur dit « si vous n'êtes pas prêts à tout quitter pour moi, vous allez avoir des problèmes, vous allez perdre votre vie. Si vous croyez conserver votre vie en conservant vos intérêts et votre confort et votre situation, finalement vous allez la perdre quand je reviendrai avec mes anges. » Porter sa croix est un investissement qui peut s'avérer très coûteux. Et quand on écoute les paroles de Jésus, on voit que c'est très très coûteux, puisque c'est donner sa propre vie, porter sa croix. Mais cet investissement rapportera très gros dans l'avenir. Cependant, il ne faudrait surtout pas limiter la foi en Jésus à une sorte de placement financier. Ce n'est pas qu'un investissement, la foi en Jésus. Tout comme pour Jonathan, ce n'est pas qu'un investissement, David. La foi en Jésus, c'est avant tout une relation. Et là encore, les rapports entre Jonathan et David aident à bien saisir ce qui est en jeu. Jonathan a compris que Dieu était avec David, non seulement en voyant ses victoires militaires, mais aussi son cœur, en voyant le caractère de David. Pourquoi tout le monde aime-t-il David ? Parce que David est bon, parce que David est zélé pour le Seigneur. Parce que David ne triche pas, parce que David est entier. Jonathan compare David à son père. Et quand il compare David à son père, eh bien il comprend tout de suite que son père, c'est un mauvais roi et que David fera un excellent roi. C'est pour ça que Jonathan aime David. Parce qu'il a compris tout son aura. Il a compris. C'est pour ça qu'il l'aime. C'est parce que David est quelqu'un de génial. Quelqu'un qui a été doué, doté par le Seigneur, de dons absolument merveilleux. Et bah pour les disciples, c'est pareil. Les disciples ne suivent pas Jésus à cause de sa grande puissance, à cause de ses miracles, mais parce que les disciples ont perçu en Jésus plus qu'un rabbi, plus qu'un maître de la loi, plus qu'un prophète. Les disciples ont compris que Jésus était le Seigneur. Porter sa croix, c'est être prêt à se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime et en qui on a mis sa foi. C'est ce que fait Jonathan. Il aime David parce qu'il sait qui est vraiment David. Et nous, si Jésus est Seigneur, s'il est ressuscité, s'il siège actuellement à la droite du Père et qu'il intercède pour que nous soyons en permanence pardonnés, qu'attendons-nous pour accepter de tout perdre pour le suivre? Pourquoi restons-nous encore attachés à des morceaux de vie terrestre? Pourquoi restons-nous attachés à d'insignifiants privilèges appelés à disparaître un jour? Est-ce parce que nous doutons de son règne à venir? Est-ce parce que nous n'avons pas la patience d'attendre et que nous préférons prendre ce qui est autour de nous plutôt que d'attendre beaucoup plus tard quelque chose de meilleur? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Peut-être qu'il y a un peu de manque de foi de notre part. Mais en fait, je pense que la véritable raison est que notre relation avec Dieu n'est pas assez forte. Car, rappelons-le encore, nous ne sommes pas en face d'un investissement avec Jésus, mais nous sommes en face d'une personne réelle, qui a vraiment donné sa vie sur la croix. Une personne réelle qui habite en nous par son esprit. Une personne réelle qui veut une relation vivante, une relation vivifiante avec nous. Qu'attendons-nous pour expérimenter son amour? Qu'attendons-nous? Et je reviens sur ce qu'a dit Nico, parce que en fait, c'est intéressant, quand on a des soucis, quand on est dans l'épreuve, c'est plus facile d'expérimenter la relation avec Dieu, parce qu'en fait on n'a plus rien d'autre. Vous avez remarqué, plus vous êtes dans le danger, dans les soucis, plus vous avez envie de prier. Et plus vous êtes dans le confort, plus ça va bien. Et tout à l'heure, tu as dit, une fois qu'en fait, on a remis nos soucis, on va bien. Mais le problème, c'est que dès qu'on va bien, on recommence un petit peu à s'éloigner de Dieu, on recommence un petit peu à se dire, ah, en fait, la vie est pas mal. On commence à se reconfier dans nos propres forces. Et je pense que dans la Bible, l'enseignement, c'est que le danger, c'est pas l'épreuve. Le danger, c'est quand tout va bien. C'est quand on va assez bien, finalement, qu'on peut le plus faire de bêtises et s'éloigner du Seigneur. Et donc, l'exemple de Jonathan, ou l'exemple, je ne sais pas, du jeune homme riche avec Jésus, qui dit, Seigneur, je veux te suivre. Et Jésus lui dit, d'accord, viens, suis-moi. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi. Le jeune homme riche s'en va parce qu'il est très triste. Il était très riche. Jonathan, lui, il était très riche. Il avait tout le pouvoir et il a accepté de tout perdre pour suivre David. Et nous, qu'est-ce qui reste encore à abandonner au Seigneur? Alors, ça peut être des choses douloureuses, hein, et l'intro de Nico est très utile pour ça, mais ça peut aussi être des idoles qui nous font du bien. Des idoles qui nous font du bien et qui nous empêchent finalement de pleinement suivre Jésus, et on en a tous. Et je ne sais pas si vous arrivez à en voir, mais si vous ne voyez pas d'idoles un petit peu confortables qui vous font du bien et qui prennent la place de Jésus, eh bien, je vous invite à prier pour les discerner. Mais avant de prier, je vous laisse un dernier passage qui est déjà là. Éphésiens 3, à partir du verset 14, c'est Paul qui écrit. Et c'est souvent un passage qui est cité à la fin des cultes. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Nous sommes appelés pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, à découvrir la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Seigneur pour nous. Et si nous voulons découvrir à quel point cet amour est merveilleux et infini, il nous faut lâcher toutes les autres choses qui nous apportent du réconfort. Si nous voulons comprendre, expérimenter cette puissance de Dieu qui va infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, eh bien, nous sommes appelés à prendre des risques pour lui. Et justement, à lâcher les choses qui nous réconfortent pour nous mettre en danger et pour que lui-même soit celui qui nous réconforte. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux et ça nous fait peur. Peut-être beaucoup plus que nos épreuves. Parce que les choses qui nous rassurent au quotidien, bah, nous avons peur de les lâcher. Donc vraiment, qu'attendons-nous pour expérimenter son amour? Je vous invite à prier. Merci notre Père, car comme nous l'avons chanté, tu es descendu de la position ultra privilégié que tu avais auprès de ton Père, et tu es venu sur cette terre pour mourir sur la croix. Merci, toi, parce que tu as accepté de tout quitter, tu as accepté de tout risquer pour passer une bonne trentaine d'années parmi nous, pour expérimenter notre dépendance, pour expérimenter tout ce qui nous fait souffrir au quotidien. Et Seigneur Jésus, on veut vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons t'imiter. Nous voulons nous aussi prendre ce risque de quitter toujours un peu plus notre culture nationale, notre culture familiale, de quitter, de laisser tomber les idoles auxquelles nous tenons tellement particulièrement, qui nous apportent du réconfort, de la joie, de la chaleur. Seigneur, ces idoles, nous les aimons. Parfois, nous les aimons plus que toi. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous aides à laisser tomber ces idoles et à te prendre toi, toi, comme unique réconfort. Seigneur, nous voulons expérimenter cet amour que nous avons déjà goûté et que nous aimons tellement. Nous voulons plus, nous voulons encore plus expérimenter à quel point tu nous aimes et à quel point tu peux nous faire du bien. Tout à l'heure, Nico nous a dit que c'est super parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Et Seigneur, merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aimes tellement que tu ne peux pas nous laisser tels que nous sommes. Et Seigneur, nous te prions pour que ton esprit continue de nous transformer. Dans notre caractère, dans notre comportement, Seigneur, continue de nous transformer. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen.